für diese selige Gewissheit,
pour cette certitude
und Hoffnung
divine et en même temps
die
espérance
wir tragen,
que nous portons en nous,
einmal beim Herrn zu sein,
d'être auprès du Seigneur,
für immer.
Et cela pour toujours.
Und er wird alle Tränen
et il essuiera
von unseren Augen abwischen.
Toutes nos larmes de
und
nos yeux
kein Leid
et
und kein Geschrei mehr sein,
il n'y aura plus de douleur et de cris, de plaintes, mais dans l'éternité, la paix, la joie et tout ce qui appartient à cela. Nous avons la promesse de ce que cette promesse des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et des hommes qui aiment Dieu ont dû être aimé par lui et appelé à sortir par amour. Sinon, c'est seulement une confession de lèvres. Et cela apportera personne au ciel. Seulement l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ nous fera atteindre le but. Et pour cette raison qu'il est écrit aussi, l'amour. Oui, l'amour ne périt jamais. Parce qu'il n'a jamais commencé, il est éternel comme Dieu lui-même est éternel. La connaissance, la sagesse, le don de sagesse, tous les dons, tous les devoirs, tout une fois aura une fin. Car les choses ont eu leur commencement. Ces choses ont eu leur commencement. Mais ce qui était en Dieu sera éternel. Parce que ça n'a jamais commencé. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons nous consoler les uns les autres avec ces paroles. Des hommes qui, dans ces jours, ouvrent leurs yeux et ouvrent leurs oreilles, etc., doivent désespérer parce qu'ils voient. Parce qu'ils voient le désespoir. Comment est-ce que tout va vers sa fin? Aussi même les incroyants. Et ils attendent avec tête courbée quand est-ce que toutes ces choses prendront fin. Mais nous pouvons prendre cette promesse au sérieux. Quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, redressez-vous, levez vos têtes. Car vous savez que votre rédemption est proche. Les autres sont assis là et pensent, oh, on espère que cela ne va pas se passer aujourd'hui. Mais nous, en tant que les courbés, nous pouvons redresser nos têtes parce que nous savons que notre rédemption est proche.
Les rôles vont bientôt être.
Les rôles vont bientôt être échangés. Ceux qui sont maintenant rejetés seront les reçus. Et ceux qui sont maintenant, qui sont les bien vus seront rejetés. Les rôles vont changer pour notre bien. Ne vous inquiétez pas. Notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu véritable. Et il faut que chaque parole de Dieu deviennent chers à nous et deviennent une conviction, une partie ferme de notre vie spirituelle. Nous devons, avec un amen de tout notre cœur à chaque parole, un accord total, avoir un amen et un oui à chaque parole de Dieu. Car en lui est, n'est-ce pas, le oui et aussi le amen pour toutes les promesses de Dieu. Il a pris toute la responsabilité. Qu'est-ce que nous pouvons encore avoir à nous soucier? Tout au plus, c'est ainsi que nous ne sommes pas satisfaits de nous-mêmes ou bien avec certaines circonstances, situations dans lesquelles nous sommes. Mais avec Dieu et avec ce que Dieu a fait, nous sommes toujours satisfaits. Pas une seule fois Je me suis plaint de sa parole, de ses bénédictions et de ce que Dieu a fait. Même quand parfois je gémis, c'est à cause d'autres choses, mais pas à cause de ce que Dieu a fait. Bien au contraire, cela fortifie et me fortifie et me relève. Et c'est ainsi que nous devons apprendre à séparer ces deux domaines et à comprendre qu'ils appartiennent à deux mondes différents. Nous allons jamais pouvoir ordonner le spirituel dans ce monde et jamais ce monde dans le spirituel. Cela, il reste deux choses différentes et notre Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et si ainsi nous avons compris cela, alors nous allons, n'est-ce pas, considérer les choses qui passent comme temporelles et nous allons plus leur donner l'importance que parfois nous leur donnions. Dans ces deux réunions, le matin et l'après-midi, je ne veux pas parler parce que le soir, dans la réunion principale, par l'enseignement, je voudrais exposer les choses qui doivent être exposées et enseignées pour que, dans la foi, nous soyons mis à jour. Et ça, c'est mon souhait profond. Pas seulement être une partie d'un programme, mais vraiment avoir part à ce que Dieu fait dans ce temps. Vous avez, ce matin, il y a une sœur qui priait en polonais. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue aux frères qui sont venus de la Pologne. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Je veux dire, vous, les sœurs qui nous avez visités, que Dieu vous bénisse parmi nous, de la Pologne. Ils comprennent très bien l'allemand, mais quand il s'agit de la prière, alors ils prient facilement dans leur langue, plus facilement. Alors, j'ai compris que le frère Molora, après cette réunion, veut rentrer à la maison, veut repartir. Je pense que ce serait juste s'il pouvait au moins saluer l'Église, parce que ce ne serait pas bien de le laisser repartir comme ça, sans lui avoir donné l'occasion au moins de remettre des salutations. Je lui demanderais de venir maintenant devant. Comment on va faire, je ne sais pas, mais il va être très court, bien sûr, mais de l'italien en français et ensuite du français en allemand. C'est comme ça que ce sera sûrement. Alors maintenant, j'aimerais lire dans 2 Corinthiens 4, le verset 17 et le verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quelle profondeur est dans ces deux versets, est exprimée dans ces deux versets. L'une des choses est déclarée comme des légères afflictions du moment présent, mais qui, d'un autre côté, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. De gloire. En allemand, un poids plein, dans toute sa dans tout son poids. Nous l'avons lu dans Hébreux que tous les serviteurs du juste sont passés par beaucoup d'épreuves. Hébreux 11, et malgré tout, si on pouvait leur demander aujourd'hui, est-ce que vous voulez repasser par le même chemin, ils diront oui à cela. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que le chemin terrestre est? Ce qui est important, comme le cantique le chante, c'est il finit auprès de toi dans la gloire. Il aboutit auprès de toi dans la gloire. C'est la chose la plus importante. Un mauvais chemin sans le but juste n'est pas bien du tout. Mais le chemin, ça n'a pas d'importance. Comme il est, avec le but juste, nous voulons marcher sur ce chemin. Et ici, comme explication, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Je crois que là, nous pouvons tous nous examiner. À chaque fois que nous avons regardé aux choses visibles, les légères afflictions sont devenues lourdes et nous n'avons pas pu supporter leur poids parce que nous n'avions pas compris qu'elles servaient à nous préparer pour le grand but et nous permettre de l'atteindre. Mais si nous faisons ce qui est écrit au verset 18, parce que nous regardons non point aux choses. C'est pour cette raison que les afflictions sont légères. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Vous savez, il y en a qui ne sont pas seulement pleins maintenant, mais déjà dans les jours des apôtres, il y en avait qui se plaignaient et qui accusaient. Ils disaient, les lettres de Paul sont puissantes, mais il ne sait pas parler du tout. Il y a quelqu'un qui ne sait pas parler du tout. Nous connaissons toutes ces choses qui ont été exprimées. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui n'ont pas trouvé de l'importance dans ce que Paul disait parce qu'ils ne reconnaissaient pas qu'il parlait de la part de Dieu, mandaté par Dieu. Ils sont passés à côté de cela. Dans un autre passage, Paul le dit qu'il y en a qui prêchent Christ par jalousie et d'autres par envie et d'autres par esprit de dispute pour resserrer mes chaînes, pour me faire du mal. Donc, il y avait différents motifs. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que cela existe. Parmi ceux qui prêchaient, déjà autrefois, il y a des gens qui ne pouvaient pas attendre jusqu'à ce que Dieu les appelle et les introduit dans son corps, dans une harmonie divine, pour que tous les ministères et les devoirs dans l'Église puissent être exécutés comme Dieu le veut, dans la volonté parfaite de Dieu. Et vous savez, quand Paul parle, écrit sur l'Église, il voit Christ en tant que la tête, en tant que le chef, et tous les croyants joints ensemble en tant que membres dans ce même et seul corps du Seigneur, par lequel la volonté de Dieu doit être faite et être exécutée et va être exécuté. Dieu ne va pas envoyer un ange, Gabriel ou bien Michaël, Dieu lui-même va utiliser son corps, qui est son Église, pour faire l'histoire de l'histoire du salut, pour faire la fin, pardon, de l'histoire du salut. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour cela, mais Dieu doit aussi pouvoir nous faire confiance. Et nous devons comprendre à quelle place il veut que nous soyons. Et quand Paul écrit et parle comment de la liaison des membres l'un avec l'autre, même quand un membre souffre, tout le corps souffre. Alors, c'est une douleur dans tout le corps pour un seul membre qui souffre. Chaque membre ressent la douleur de l'autre. Aujourd'hui, dans quel état les choses sont?
Oh,
mon Dieu, on n'a même pas le droit de penser à ça. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans des douleurs et dans le désespoir et ne même plus être là, on ne le voit plus et on n'entend plus parler de la personne. Et les autres, rien ne s'est passé pour eux, il n'y a même pas les problèmes. Et pourquoi est-ce que cela est possible? Il n'y a pas de relation divine avec la tête, avec le chef. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas non plus de relation les uns avec les autres. Si la douleur du frère n'est pas ta douleur et que ses problèmes ne sont pas tes problèmes, alors je me pose la question, toi-même, pose-toi la question, est-ce que en tant que membre, nous appartenons vraiment à ce corps et que nous avons été vraiment joints dans le corps par le même esprit? Est-ce que nous portons les fardeaux les uns des autres? Est-ce que la même vie se répand et coule par chacun de nous? Est-ce que cette liaison divine et spirituelle elle existe? Si ce n'est pas encore comme ça, il faut que cela soit ainsi. Très bientôt. Et je ne veux pas ici précéder les choses. Mais je crois que la restauration de toutes choses ne nous ramène pas seulement au dernier chapitre des Actes des Apôtres, mais au premier chapitre. Là où dans les Actes des Apôtres, au début, il n'y avait pas de faux frères, il n'y avait pas de désordre, il n'y avait pas de fausse doctrine, il n'y avait pas d'interprétation. Les premiers chapitres des Actes des Apôtres, ils étaient un seul cœur, une seule âme, d'un commun accord. Ils priaient ensemble et la salle même tremblait, où chacun allait dans la brèche pour l'autre et l'amour divin était et brûlait dans le cœur de chacun. Et plus tard déjà, dans Actes des Apôtres, déjà, les choses ont changé. Il y en a qui ont commencé à prêcher déjà que la résurrection a déjà eu lieu et ça a commencé déjà avec toutes les différentes doctrines et interprétations et enseignements comme aujourd'hui en grande partie déjà nous les avons ou bien nous les avons de nouveau. Non, je crois de tout mon cœur que Dieu totalement, entièrement nous ramène au commencement à cela, et frère Rousse l'a déjà bien mentionné, revenir à la Pentecôte, où tous ceux qui ont été appelés à sortir par la parole et qui ont été rachetés par le sang de l'agneau se retrouvent pour être baptisés d'un seul esprit, pour avoir la même foi, parler le même langage divin, et là, l'un n'a plus besoin d'enseigner l'autre. Alors nous sommes heureux quand Dieu nous enseigne, peut nous enseigner tous, et que ensemble nous pouvons nous aider les uns les autres, nous servir et nous soutenir avec le don que Dieu a accordé à chacun. Ce ne sera pas un système constitué d'un seul homme ou bien de deux hommes. Ce sera l'œuvre finale de notre Dieu parmi son peuple. Et nos imaginations, nous pouvons déjà dès aujourd'hui les laisser à la maison. Dieu n'en a pas besoin du tout parce que lui, il a déjà fini son programme. Mais nous avons ce désir profond dans notre cœur et cela encore plus que le temps passe, de comprendre mieux Dieu, de mieux comprendre Dieu et d'être une partie de son plan et de son dessein. De Moïse, il y a cette parole connue qui toujours depuis des années est dans mon cœur, Exode chapitre 33. Cette preuve de la grâce divine qui constitue à ce que Dieu nous laisse savoir ses voies, la grâce de Dieu. Ici dans Exode le chapitre 33, à partir, nous prenons à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais, en allemand, tu m'as ordonné de faire monter ce peuple et tu ne m'as, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu m'as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Maintenant, arrive. Maintenant, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes plans, tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et je trouverai grâce à tes yeux. Considère que cette nation, que ce peuple est ton peuple. Est-ce que cela ne sont pas des paroles merveilleuses? Moïse, sa propre assurance qu'il avait lors de la première fois était passée. Il n'était plus l'homme fort qui avait frappé l'Égyptien et l'avait caché dans le sable et ensuite goodbye. Il n'était plus l'homme qui essayait de faire les choses de lui-même. Mais après 40 ans de temps d'attente, et vous savez où se tient tout le mystère, Moïse est allé 10 ans plus tôt, trop tôt, de lui-même. Vous pouvez lire dans plusieurs écritures. Dieu avait dit à Abraham, 10 ans trop tôt, Dieu avait dit à Abraham, après 400 ans, je ferai sortir ton peuple de l'Égypte. Et vous pouvez le lire, que exactement 430 ans, pendant 430 ans, ils sont restés en Égypte et que c'est après les 430 ans qu'ils ont été appelés à sortir. Et vous pouvez aussi lire, je peux vous donner bien toutes ces écritures, que Moïse, entre son premier essai et quand il est allé la deuxième fois, il a dû attendre 40 ans. Il devait attendre 40 ans. Donc, 430 moins 40, ça fait 390 ans. Donc, cela peut nous arriver que si nous faisons quelque chose en nous dépêchant, en précédant, alors quoi que Dieu nous ait déterminé à faire ça, mais son heure et son temps, on ne pouvait pas l'attendre, que alors plusieurs choses pourront nous arriver qui n'avaient pas besoin de nous arriver. C'est pour cette raison que nous voulons rien prescrire à Dieu. Pas de calculation, pas de calcul. Et dire, voilà, maintenant, ceci et cela dans ton royaume va se passer. Non, Dieu ne va même pas prêter l'oreille à ce qu'on lui dit. Il ne voit même pas ce qu'on calcule. Eh bien, alors, ce qu'on lui dit. Lui, il a fait son plan. Et c'est dans ce plan divin que nous voulons nous laisser introduire. À quoi est-ce que ça vous sert que d'ici, des choses soient faites de la chair dans lesquelles Dieu n'est même pas, il n'y est même pas. Moi, cela ne me sert à rien du tout. Je veux être vérité et rester vrai jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Et je ne crois pas qu'un serviteur de Dieu ait besoin de démontrer des choses devant le peuple de Dieu. Non, nous attendons que l'heure de Dieu arrive. Et cette heure arrivera certainement. Et dans notre temps, elle arrivera, une heure. Et elle est très proche. Et pourquoi est-ce que nous devrons alors fixer des propres temps? Non, Dieu, lui, il a fixé déjà toutes choses. Et cela me suffit, et nous suffit. Ici, il y a cette parole merveilleuse que Moïse dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton plan, tes voies. » Alors, considère que cette nation est ton peuple. C'est là tout le mystère. C'est ici qu'est contenu tout le mystère. Ce n'était pas l'affaire de Moïse. Et dans ce temps, ce n'est pas l'affaire d'un frère Branham. Mais c'était l'affaire de Dieu depuis le commencement. Et c'était l'œuvre de Dieu. Il a seulement utilisé des ustensiles pour cette œuvre. Et c'est lui qui bâtit son royaume. Mais l'affaire et l'œuvre reste et demeure l'affaire de Dieu et l'œuvre de Dieu. Il dit ici, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, verset 13, il relit encore d'Exode 33, fais-moi connaître tes plans en allemand. Tes plans pour que je puisse savoir que j'ai trouvé grâce à tes yeux en allemand. Que j'ai trouvé grâce à tes yeux, pour que je puisse le savoir. Ensuite, au verset 16, ça continue, mais au verset 15, peut-être encore aussi avec. Moïse lui dit, verset 15, si tu ne marches pas, en allemand, si tu ne marches pas en personne, toi-même, donc en personne avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment pourrions-nous connaître autrement, moi et ton peuple, que nous avons trouvé grâce devant toi, pas seulement Moïse, mais tout le peuple. Un homme de Dieu ne pense jamais à lui, il pense jamais à lui, mais il pense au peuple de Dieu, pas à lui. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons, donc moi et ton, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, distingués de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Si nous rapportons cela à l'Église du Nouveau Testament, et ça je le crois, car le peuple de Dieu n'est pas une dénomination, mais l'Église appelée à sortir, l'Église des élus, et elle doit, pour finir, se distinguer de toutes les églises qui existent sur terre. Et cette distinction, ce n'est pas nous qui la faisons par des nouveaux enseignements ou bien des vieux enseignements, mais cette distinction est faite en ce que Dieu lui-même est parmi son peuple et qu'il fait son œuvre, il manifeste sa présence, il marche avec son peuple. Lui-même, c'est Dieu lui-même par sa présence parmi son peuple qui fait cette distinction. Mais c'est lui qui fait la distinction. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas nous-mêmes. C'est lui et lui seul. Par sa présence, par sa manifestation. Et nous pouvons lui dire, Seigneur, comme tu l'as dit autrefois, que cela soit manifesté maintenant. Que on fera la différence entre l'Église du Dieu vivant et entre de toutes les églises organisées. La différence divine, on la verra, elle sera distincte. Qu'il marche et qu'il habite parmi son peuple. Et que ici, ce n'est pas une organisation, mais que c'est un organisme vivant, joint par Dieu lui-même, par un seul esprit dans un même corps. Une église sur laquelle à qui il peut faire confiance. Un peuple qui est nommé de son nom. Et ça, je crois de tout mon cœur que Dieu fera cette distinction avant l'enlèvement, manifestera, rendra visible cette distinction avant l'enlèvement, comme il a fait autrefois, alors qu'il avait appelé le peuple d'Israël de l'Égypte. Partout, il y avait des ténèbres, mais à Gozen, là où le peuple de Dieu attendait avec la promesse, là, il y avait la lumière claire. Alors que dans toute l'Égypte, c'était obscur, à tel point qu'on pouvait saisir dans la main l'obscurité. Mais là où le peuple de Dieu était, c'était la lumière. Cela doit se répéter, cette distinction. Dieu ramène ce qui a existé auparavant, n'est-ce pas? Ce qui a disparu, Dieu le ramène. Et ce qui était sera de nouveau. C'est écrit dans l'Ecclésiaste. Notre Dieu fait des choses extraordinaires. Et s'il les a faites une fois, il peut les refaire et encore les refaire parce qu'elles étaient parfaites, merveilleuses et remplies de bénédictions pour son peuple. Et là, nous voulons lui demander de tout notre cœur, Seigneur, encore une fois. Oh, quand on se rappelle de Samson, en fait, il est une douleur pour moi plus que tous dans la Bible, mais il avait malgré dans son cœur, malgré cela dans son cœur, ce souhait profond, ce désir profond, que Dieu, encore une fois, puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Et que encore une fois, sa puissance puisse être manifestée. Et la même chose, nous l'avons aussi dans notre cœur. Ça, je peux le dire pour nous tous. Qui dans son cœur est rempli de ce profond désir qui puisse dire nous toujours, ô Dieu, que la fin avec l'Église maintenant soit au moins telle que fut son commencement dans les Actes des Apôtres. Je crois que tous nous pensons ainsi, n'est-ce pas? Laissez-moi vos mains. La main, Dieu ne peut pas le voir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au moins vos mains, Dieu peut voir. C'est le profond désir de notre cœur. Et en raison de la parole de Dieu, nous allons reconnaître que le Seigneur n'a pas seulement fait des paroles, mais qu'il a veillé sur sa parole, qu'il veillait sur sa parole pour l'accomplir dans l'Église de Dieu en Israël au temps convenable, au temps voulu. Le verset 17 de Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes maintenant. Je ferai aussi ce que tu me demandes maintenant. » Alléluia. « Je ferai ce que tu m'as demandé maintenant. » Fais tes délices de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37. Notre Seigneur, notre cœur ne désire pas des choses, ne désire plus des choses terrestres. Ça peut être des pensées, mais notre cœur a qu'un seul désir. Ce que Dieu a promis, de l'expérimenter, de le voir dans sa réalité accomplie et de le vivre dans la réalité. L'Éternel nous répond à nous aussi aujourd'hui avec les mêmes paroles. Je ferai ce que vous me demandez ici dans la prière devant ma face. Cette demande, je vous l'accorde aussi. Le Dieu de Moïse est aussi notre Dieu. Et Moïse disait que tu puisses savoir que c'est ton peuple et pas moi, mon peuple. Considère que cette nation est ton peuple et que cette œuvre est ton œuvre et que cette affaire est ton affaire. Moi, je suis seulement placé par toi parmi ce peuple pour faire ce que tu m'as ordonné de faire, ce que tu m'ordonnes de faire. Mais la chose est ton affaire, est à toi. C'est à toi de faire tout ce que tu as promis. Et nous voyons que Moïse, dans la présence de Dieu, pouvait que exprimer de telles demandes que Dieu exaucait tout de suite. Mais bien-aimés, plus nous nous rapprochons de Dieu dans la prière et plus nous vivons dans sa présence et plus nos demandes, nos prières vont être exaucées tout de suite et elles seront résumées dans une seule demande que nous apporterons devant la face de Dieu et qu'il nous exauce sera. Et à la fin, on sera étonné de voir que même la variété de nos désirs ont trouvé leur accomplissement. Mais Dieu examine notre cœur. Il ne veut pas, il nous teste, il ne veut pas que nous lui écrivons une liste de Noël avec toutes sortes de souhaits, de cadeaux. Non, il veut la chose principale. Il veut nous montrer devant les yeux et nous dire, Voilà, c'est écrit ici. Je ferai ce que tu me demandes. Et cette demande que tu as exprimée ici aussi, dit l'Éternel à Moïse, je te l'accorde. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Quelque chose de glorieux. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est pour ça que je ferai ce que tu me demandes. Vous savez, le Seigneur s'est présenté à Moïse et a dit, je suis le je suis. Dis-leur, le je suis m'a envoyé. Moïse savait qui l'avait envoyé. Et le Seigneur, n'est-ce pas, avait aussi connu Moïse et a dit, je te connais par ton nom. Nous aussi, toi et moi, nous devons savoir que le Seigneur nous connaît par notre nom. Nous pouvons lui apporter dans la prière les affaires de son peuple et résumer ça en une seule demande. Et il nous dira aussi, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Vous savez, si un homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors cela inclut que de la première jusqu'à la dernière promesse, tout vont s'accomplir dans la vie de cette personne pour la gloire de Dieu. Trouver grâce aux yeux de Dieu veut dire aux yeux de Dieu être enveloppé dans sa miséricorde et dans sa bonté. Que Dieu, ce qu'il nous a promis, il nous l'accorde. Il veut dire par là, vous n'avez rien besoin de craindre. Ne vous inquiétez de rien. Vous avez trouvé grâce à mes yeux, une fois pour toutes, jusqu'à la dernière demande. Nous allons voir tout cela accompli par la grâce de Dieu. Mais cela va aussi arriver à ce point avec nous que nous n'aurons pas besoin d'écrire des listes de désirs et d'exprimer de longues prières, mais dans la présence de Dieu, exprimer une demande. Ce qui a été inspiré en nous par le Saint-Esprit, nous allons prononcer ça en accord avec la parole de Dieu et Dieu va vouloir le faire. Chaque homme de Dieu, dans différents temps et circonstances, a apporté dans la prière à Dieu ce qui était nécessaire au moment précis et était à sa place. Et le Seigneur a répondu. Ce soir ou bien cet après-midi, tu dois savoir, bien-aimé cœur, bien-aimé frère et bien-aimé sœur, si Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, où sa colère brûlait encore, si là, dans l'Ancien Testament, il pouvait dire, tu as trouvé grâce à mes yeux, je te laisse connaître mes voies, mes plans, etc. Cacherai-je ce que je vais faire? Alors, comment ça doit être avec nous maintenant, dans le temps de la grâce, où la colère est tombée, où la colère s'est retirée et la grâce de Dieu a été pleinement manifestée. Et là, je peux me reposer complètement dans cette certitude que Dieu nous a laissé savoir ses plans, ses voies, parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Et pas seulement ça, mais il va nous inclure dans tout ce qu'il s'est proposé de faire. Il va nous inclure dans tout. Soyez fortifiés dans la foi. Soyez fortifiés et consolés. Notre Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir au temps convenable. Au temps convenable. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Alléluia. Père céleste, nous te remercions de nouveau pour cette sainte et précieuse parole. Seigneur, Nous voulons dire avec Moïse, plus comme nous voulons, mais comme tu veux. Et nous ne voulons pas aller, et nous voulons aller nulle part si cela n'est pas ta parfaite volonté. C'est ce que Moïse a reconnu. Et nous ne voulons rien faire si ce n'est pas ta volonté parfaite. Nous voulons aussi, comme Moïse, reconnaître que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes incapables. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, Seigneur. Et particulièrement parmi nous et dans notre vie, Seigneur, dans l'église et dans notre vie. Nous voici dans ton église, parmi ton peuple, ô Dieu fidèle, car nous ne savons pas comment nous devons aller, nous ne savons pas ce que nous devons faire, mais toi, ô Seigneur, tu es notre Père. Toi, tu es capable de bien nous conduire, car si nous devions entreprendre quelque chose de nous-mêmes, alors cela va échouer et sera condamné. Mais si toi, tu es avec nous, tu marches avec nous, tu marches devant nous, nous n'avons plus besoin de craindre quoi que ce soit, parce que tu marches avec nous, tu es devant nous et nous te suivons. Oh Seigneur, nous te louons, nous louons ton saint nom, nous te remercions. Encore cet après-midi, nous avons reçu une leçon merveilleuse. Oh Seigneur notre Dieu, que cette leçon dans nos cœurs à tous soit profondément ancrée, une fois pour toutes, et que nous puissions méditer là-dessus, ce que tu voulais nous dire par cela, ô Seigneur, dans ces jours, beaucoup vont leur propre chemin et prétendent que tu les as envoyés et que c'était dans ton plan. Mais nous voyons Moïse avait fait cela une fois, mais la deuxième fois, il a dit, Seigneur, si tu ne vas pas, ne nous fais pas bouger d'ici. Nous aussi, nous voulons faire la même chose. Nous devons être sûrs que c'est toi qui veux que nous fassions quelque chose. Oh Seigneur, accorde-nous cette crainte. Reçois l'honneur dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.